Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Derrière le rideau. Bonjour Fabrice, bonjour William.
Bonjour Rebecca,
bonjour chers bonjour auditeurs. Fabrice. Et bonjour Jean-Baptiste et Bernard Gouet qui sont de nouveau avec nous pour continuer la suite de l'émission sur le compositeur Émile Gouet.
Bonjour, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous et bonjour aux auditeurs. Oui, donc avant Bordeaux, qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée à Bordeaux?
Avant d'arriver à Bordeaux, mon père est allé enseigner pendant un an à Boulogne-sur-Mer. Ensuite, a été muté à Agen, séjour au cours duquel il a très peu composé, pour ne pas dire pas du tout, dans la mesure où il a préparé l'agrégation. Il a été reçu à l'agrégation à la première fois, mais on l'a déclassé, parce qu'il était bien classé pour une première fois, et à l'époque, peut-être comme maintenant, les promotions et la carrière se faisaient en fonction du rang d'obtention de l'agrégation. Et la deuxième année, il l'a passé, il a été nommé agrégé en deuxième position, ce qui lui a permis d'intégrer après directement le lycée Montaigne, avec des classes à Bordeaux, avec des classes de maths sup.
Mais fait de lui un futur très grand professeur.
Oui, mais par contre, ils ont eu un drame dans la famille à ce moment-là. C'est que j'ai eu une première sœur qui est née morte. Et si ça a une importance autre que l'importance de, je vais dire, familiale, de chagrin, c'est pendant la guerre, pendant la captivité, les pères de quatre enfants ont été libérés. Jusqu'à l'évasion du général Giraud.
Donc la petite Claude.
La petite Claude n'a pas compté dans le quota. La libération des pères de trois enfants était en cours de discussion et tout a été bloqué par les Allemands avec le départ de Giraud. Ce qui, compte tenu de la maladie, du traitement qui, au point de vue du traitement de santé qui a suivi, a entraîné sa mort en 46.
C'est ça. Il a été déclaré mort pour la France en 46 suite à un décès d'une maladie contractée dans les camps, voilà. Maladie pulmonaire grave et dont il n'a pas pu se remettre. Voilà. Donc il a été obligé de vivre dans les camps, on va en parler tout à l'heure, oui. Enfin, dans le camp des officiers, les Auflag en Allemagne, et a beaucoup souffert en particulier à partir du moment du débarquement américain qui provoque de graves perturbations dans le système de communication allemand.
Pardon, j'ai simplement parlé de la petite et de la répercussion, parce que c'est une répercussion qui va plus loin que le chagrin.
Parce qu'il y aura sûrement des pièces qui vont être dédiées à elle par la suite. Voilà.
On va y venir. C'est un événement important. Et un deuxième événement important, c'est l'arrivée de Bernard Gouet aussi.
Entre les deux, il y a Michel. Qui naît le 30 mai 1932. C'est ça ?
Oui, c'est ça, vous en savez trop. Oui, c'est ça.
Et donc, il rapporte quand même un petit peu de joie à la famille suite.
C'était une réussite. Deux ans après, voilà. C'était un garçon, donc déjà, pour le nom à l'époque, ça comptait. Excusez-moi. Mais je pense que pour ma mère, ça a été une réussite après un échec, vous voyez. Parce que moi, je n'ai jamais eu ni de photos, ni de. Comment dirais-je, ni de souvenirs, pas un petit vêtement qu'elle aurait pu préparer pour la première année.
Il continue en même temps son activité de compositeur.
Alors à Bordeaux, oui. Là, ça, il s'y remet, j'allais dire, puisqu'il sort un certain nombre de pièces, y compris un opéra.
Vanda. Vanda, donc, qui est son opéra unique. Donc, il ne va pas pouvoir le faire créer de son vivant, cet opéra.
Oui, avant Vanda, il avait créé un opéra qui s'appelait Le Chevrier. Quand il était à Toulouse, donc quand il avait 20 ans, il avait essayé de caser un opéra à Toulouse. Ça n'a pas abouti. Il a écrit Vanda sur le texte de Ferdinand Duviard, qui était le fils de Ferdinand Fabre.
D'après les cotillons.
Les cotillons barrés, c'est une. Oh, allez, scénario simplifié. C'est une Carmen qui, au lieu de rouler des cigarettes, ouvre des sardines. Ça se passe à Croix-de-Vie, donc c'est pour la pêche.
En Vendée, hein, s'agit de Croix-de-Vie.
Il y a un maraîcher, qui tombe amoureux d'elle, elle lui dit maraîcher, ça vaut rien. Il se fait marin. Quand il est marin, elle dit de toute façon, je veux pas de toi, et il va se noyer. Dans les points.
C'est sentimental.
Un peu, hein, mais voilà, non, mais c'est très sentimental. Mais c'est,
ça, ça se passe de 1929, la composition, jusqu'à 1934.
Oui.
Et en fait, la création aura lieu à Mulhouse en 1950, donc à côté de chez nous. En fait, ça s'est créé à Mulhouse parce que c'est un compagnon de captivité qui était adjoint à la culture au maire de Mulhouse, alors Francis Michel. Et donc, la création va se faire en 1950 à Mulhouse en présence d'Alfred Cortot, de Claude Delvincourt, enfin d'un certain nombre des personnalités de l'occupation.
Donc, on écoute un extrait de l'opéra.
Petite remarque, il y a une suite orchestrale qui a été tirée, bien sûr, de l'opéra.
Donc là, nous, on va écouter Les Jeux de l'Océan contre ou sur les falaises de Vendée. Je ne sais pas. Il y a un petit doute là-dessus. Donc, c'est une transcription pour piano faite pendant qu'il était au camp de prisonniers sur la base de la version orchestrale qui a été rejouée en partie au camp, d'ailleurs. Voilà. Samuel Ternois qui va interpréter cette pièce. Je crois, on peut dire un commentaire peut-être sur la nature de la musique de cette pièce que Klein en a parlé. Moi, j'ai en tête que alors vous allez peut-être corriger parce que j'ai pas tout le détail en tête, mais Charles Koechlin a été extrêmement élogieux sur les intermèdes, en particulier orchestraux de Vanda, disant que ça n'avait rien à envier à La Mère de Debussy et que c'était des compositions de très belle qualité, de très belle facture. Est-ce que vous pouvez être précisé?
Je n'ai rien à préciser parce que je ne voudrais pas de livrer ce que Koechlin disait de La Mère de Debussy.
D'accord. Écoutons donc Samuel Ternois. De compositeur, et là il va faire de l'orchestre. Hein. Il compose un poème symphonique, Le vent dans nos âmes. Alors on n'a malheureusement pas d'enregistrement de ces choses-là, qui sera créé le 4 mai 1938, plus tard, par Pierre Dervaux. Et puis il écrit une première symphonie, qui est une refonte de la symphonie en sol, la symphonie de Genèse. Voilà.
Là on est en quelle année?
On est entre 33-34, donc Bernard Gouet va pas tarder à naître.
Ouais.
Bon anniversaire.
Donc le 31 octobre 1934, Bernard Gouet est né.
Je m'en souviens plus.
Où est-ce que vous naissez? À Bordeaux, du coup. Et après Bordeaux?
Mon père est nommé à Paris.
Donc en 1935, il est nommé où?
Lui, c'est Buffon.
Buffon.
Et puis en 1935, il continue à composer. Il compose un autre cycle de pièces pour piano qui s'appelle Les Ambiances, première suite, dans laquelle on a trois pièces de piano, la chanson folle, la plainte et le clown triste. On a prévu d'écouter le clown triste par Samuel Ternois. « toujours à cette époque, donc profitant de sa situation à Paris, il va commencer à rencontrer des gens très importants du milieu musical, qui est, je ne sais pas si on a déjà évoqué, Albert Roussel et Charles Quequelin. Qu'est-ce qui se passe auprès d'Albert Roussel? Qu'est-ce qui se passe auprès de Charles Quequelin, Bernard?
Et Roussel ne le prend pas comme élève, mais l'encourage fortement à poursuivre la composition, après avoir écouté d'ailleurs, je crois, des extraits de piano, justement, de poèmes musicales, et surtout, Clown Triste, que vous venez d'entendre, qui est d'ailleurs assez... Mais d'ailleurs, faut pas... je crois que Roussel décède en 36, hein.
En 1937.
37, oui, donc si on verra arriver en vers 34-35, on ne peut pas dire qu'ils se soient rencontrés très souvent. Par contre, il a vraiment pris des cours avec Quequelin. J'ai des lettres de mon père écrivant à ma mère, puisque ma mère était à Bordeaux, où il dit « J'ai rencontré Quequelin, on s'est mis d'accord, je suivrai une des leçons. » Et après, Quequelin l'a toujours défendu. Donc la liaison Quequelin-Gouet était très forte.
Et là, votre papa commence de s'intégrer dans le milieu musical parisien, dans le milieu de la composition parisienne, et il commence à éprouver des difficultés. Il voit que c'est pas toujours facile de faire sa place, de se faire reconnaître. C'est un scientifique, professeur en mathématiques spéciales, et c'est pas forcément vu d'un très bon œil, bien que des musiciens qui soient des ingénieurs, des musiciens qui soient des scientifiques, il y en a eu quelques-uns.
Donc il y a justement une citation de Charles Quequelin à ce propos, il me semble.
Un journal qui s'appelait Contrepoint. Dans le numéro qui a suivi le décès d'Émile Gouet, il écrit en petite note, hein, c'est une petite note parce que il met, nous précisons, selon savant mathématicien, professeur Louis Grand, il n'en écrit pas moins pour cela une musique intellectuelle. C'est avant tout insensible un lyrique, voilà ce qu'écrit Quequelin, avec un petit renvoi. Que de fois les critiques ont soumis la bévue de qualifier, entre guillemets, trop intellectuel, algébrique, polytechniste et des compositeurs qu'on savait habitués aux mathématiques, ainsi Roussel et moi-même. Il ne faudrait pas que cela se renouvelle au sujet des milieux.
Est-ce que vous avez des souvenirs, parce qu'en fait votre papa était à Paris, vous habitiez Bordeaux, est-ce qu'il venait pendant les vacances ou est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance avec votre papa?
Les souvenirs que j'ai de lui quand j'étais tout petit, mon premier souvenir, je ne sais pas si c'est lui, je vois un homme qui remonte une bouteille, non pas d'une cave, mais il est d'un ruisseau, vous voyez, comme quand on mange dehors. J'ai comme souvenir d'enfant, il avait coupé mon jambon et moi, gamin, j'avais essayé d'en piquer des petits morceaux, vous savez, comme un gamin. Il m'a dit de ne pas faire ça, sinon il allait me couper le doigt en même temps. La réflexion n'était pas idiote quand même. Je sais qu'il m'a gardé quelquefois. Je me rappelle jouer avec un sous-marin à roulette hein, sur un tapis qui était sous le piano, parce que ma mère m'avait confié à lui. Elle n'aimait pas bien, parce qu'un jour, elle lui avait demandé de surveiller des tétines de biberon, parce qu'à cette époque, ça se faisait, en lui disant, mais tu les enlèves au bout de 6 minutes. Quand elle est rentrée, ça sentait le caoutchouc volé partout. C'est des souvenirs de très, très ponctuels, parce qu'en plus, du fait qu'il avait son métier de professeur et sa deuxième passion, la musique, etc. Je crois que sans ma mère, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait comme carrière. Mais j'ai des souvenirs. Vous savez, les souvenirs, j'avais 4-5 ans quand il est parti. Et j'en avais 11 et quelques quand il est revenu, pour une période d'un an.
Merci en tout cas pour cette deuxième émission. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et nous vous disons à bientôt.